RFI.
Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 19h à Paris et Kinshasa à 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est le grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain Ozoui, bonsoir à tous.
Et la RDC au sommaire ce soir.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats continuent entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. L'Union africaine exhorte au M23 de déposer les armes. À Kinshasa, la capitale, plusieurs ambassades ont été attaquées aujourd'hui. Au Proche-Orient, à Gaza, les images vues du ciel sont impressionnantes. Des milliers d'hommes, femmes et enfants retournent à pied dans le nord de l'enclave palestinienne. Au sommaire également, le Premier ministre serbe finit par quitter le pouvoir. Vucevic Milos démissionne, poussé par une jeunesse qui ne décolère pas. C'est le dossier de notre édition. Dans ce journal aussi, les premières expulsions de Colombiens sous l'ère Donald Trump. Deux avions avec 200 migrants ont atterri aujourd'hui à Bogota. Et puis en France, Emmanuel Macron au Louvre. Le président que vous entendrez fait une série d'annonces pour moderniser le plus grand musée au monde.
Et puis après cette édition, eh bien nous irons au Canada. Donald Trump, le nouveau président américain, veut mettre fin au déficit commercial avec le Canada. On ira prendre la température sur ce sujet du côté de Québec, où la correspondante de RFI nous attendra.
Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La situation à Goma, dans l'est de la RDC, pour commencer ce journal. Depuis leur arrivée dimanche aux portes de la capitale de la province du Nord Kivu, les combattants du groupe armé M23, soutenus par les forces rwandaises, sont entrés dans plusieurs quartiers de Goma. Lisa Fabian, bonsoir.
Bonsoir.
La situation en centre-ville était tout de même plus calme cet après-midi.
Effectivement, les tirs d'armes lourdes et d'artillerie qui résonnaient dans la matinée à Goma se sont peu à peu estompés. La population a même profité de cette accalmie pour sortir dans les rues du centre-ville. Selon des témoins sur place, le marché de Kituku était de nouveau accessible cet après-midi. Certains habitants ont pu l'atteindre pour acheter quelques provisions. Les hôpitaux de la ville, qui ont dû faire face à un afflux de blessés, ont aussi reçu des corps sans vie aujourd'hui. Des cadavres étaient visible dans les rues de Goma. La situation humanitaire reste évidemment très préoccupante puisque la population commence à manquer de nourriture selon les acteurs humanitaires sur place.
Et à Kinshasa, Lisa, la capitale congolaise, des manifestants en colère, je vous le disais, s'en sont pris donc aujourd'hui à plusieurs représentations diplomatiques. Les ambassades de Belgique, du Rwanda, des États-Unis, de France, d'Ouganda ou encore celles du Kenya ont été prises pour cible.
Oui, des pillages et des dégradations ont été signalés dans plusieurs d'entre elles. Des magasins, des restaurants de Kinshasa ont aussi été pris pour cible par une foule de manifestants en colère. Ceux-ci dénonçaient la passivité de la communauté internationale face à la situation dans l'est de la RDC. Ce mardi, l'Allemagne a fait savoir qu'elle a mis sur pause des discussions sur son aide au développement avec le Rwanda en exigeant la fin de l'escalade et le retrait du M23 dans l'est de la RDC. La Commission européenne a annoncé de son côté aujourd'hui une aide humanitaire d'urgence de 60 millions d'euros en faveur des populations déplacées dans l'est de la RDC.
Lisa Fabian, dans cette édition internationale, la situation en RDC, nous en reparlerons dans Afrique Soir. Dans une vingtaine de minutes.
Cette marimène à présent, Adrien Delgrange, près de 300 000 déplacés qui sont entrés dans le nord de Gaza ces dernières 24 heures, c'est ce qu'affirme le Hamas.
Après 15 mois de bombardements israéliens, le nord de l'enclave est complètement dévasté et rend le retour des habitants particulièrement difficile. Les réseaux d'eau et les réseaux d'électricité notamment sont quasiment réduits à néant. Clémence Lagourdat, qui est sur place à Gaza, nous en dit plus. Elle est responsable des opérations pour l'ONG Oxfam.
Étant donné qu'on est près de la mer, l'eau elle est très saline, donc il faut des unités de traitement d'eau. À Gaza City, par exemple, 100% d'entre elles ont été détruites. Donc pour l'instant, il y a quelques points d'eau qui opèrent et les ONG essayent de mettre en place des camions citernes et des points de distribution un peu partout pour que les gens aient accès à de l'eau potable. Mais clairement, le réseau à l'heure actuelle ne fonctionne pas et a été largement détruit. L'électricité, c'est pareil, déjà pas suffisante avant la guerre. Et beaucoup de Gazaouis, en fait, utilisaient des panneaux solaires. Les panneaux solaires ont été aussi également détruits. La production locale d'électricité de même. Et ce qui restait a été parfois récupéré par les familles lors de leur déplacement.
Des propos recueillis par Pierre-Olivier. Deux réactions à l'international, un peu plus d'une semaine après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Tout d'abord, le guide suprême iranien pour l'Ayatollah Ali Khamenei, la petite Gaza, a réussi à mettre à genoux le régime sioniste armé jusqu'aux dents et entièrement soutenu par l'Amérique. Et puis la France qui s'oppose à la proposition de Donald Trump. Le nouveau président américain imagine pouvoir déplacer de force des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Pour le ministère français des Affaires étrangères, tout déplacement forcé de population à Gaza serait inacceptable. Il s'agirait non seulement d'une violation grave du droit international, mais aussi d'une entrave majeure à la solution à deux États.
Alors c'est une première depuis la chute de l'ancien président syrien Bachar al-Assad en décembre dernier. De hauts responsables russes sont arrivés aujourd'hui à Damas.
Une semaine après le retrait de la concession pour l'exploitation civile du port de Tartous, le maintien des bases militaires russes dans le pays est au cœur des discussions. Correspondance à Moscou, Jean-Didier Rovoin.
Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et l'envoyé spécial du président pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, sont arrivés à Damas à la tête d'une délégation officielle. L'objectif de ce déplacement n'est pas précisé, mais c'est la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad qu'une telle visite a lieu. Si la semaine dernière le gouvernement transitoire syrien retirait à une société russe la concession pour l'exploitation civile du port de Tartous, il y a fort à parier, comme le font ici certains médias, que la question du maintien de la base militaire navale de Tartous et de la base aérienne de Khémim sera abondamment débattue par les deux parties. Moscou s'est toujours dit ouvert au dialogue avec le nouveau pouvoir syrien et prêt à le soutenir s'il en faisait la demande, qu'il s'agisse de garantir la cohésion nationale ou d'organiser des élections. Mais s'agissant du maintien de ses bases en Syrie, la Russie fait face à un adversaire de taille, la Turquie, qui a joué un rôle déterminant dans la chute du régime syrien. Fin décembre, Ankara faisait savoir son hostilité à la présence de bases étrangères dans le pays, tout en affirmant qu'il revenait à Damas de trancher la question. Jean-Didier Revoin, Moscou. RFI.
Dans le nord et le nord-est de la Syrie, 12 civils ont été tués ces deux derniers jours, victimes de bombardements de la Turquie sur des zones tenues par les forces démocratiques syriennes. C'est ce qu'affirme le porte-parole des forces dominées par les Kurdes.
19h07 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur RFI avec Adrien Delgrange. Adrien, dans l'actualité internationale de ce mardi, la Serbie, où le Premier ministre Milos Vucevic démissionne.
Poussé vers la sortie après bientôt 3 mois de contestation populaire contre la corruption dans ce pays, la contestation est née de l'effondrement mortel d'une partie de la gare de Novi Sad. L'accident a tué 15 personnes. Alors il se trouve que Milos Vucevic est l'ancien maire de Novi Sad et c'est sous son mandat qu'avaient commencé les travaux de rénovation de cette gare. Carlota Morteo, bonsoir.
Bonsoir.
Le départ du Premier ministre Milos Vucevic peut-il désormais apaiser les tensions?
Alors, a priori, non. En réalité, Milos Vucevic fait office de paratonnerre, de fusible pour protéger le président serbe, le nationaliste Aleksandar Vucic, qui est le véritable homme fort de la Serbie depuis 2014. C'est contre lui que les manifestations sont dirigées, contre le système Vucic, comme le dit Florent Marciac, co-directeur de l'Observatoire des Balkans à la Fondation Jean Jaurès.
Vucic, au fil des ans, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a construit tout un réseau d'influence, une forme de captation d'État, donc il contrôle les médias, il contrôle les administrations, la justice, donc c'est tout un système népotique qui est en place, qui alimente une forme de clientélisme, de corruption, avec des contrats extrêmement opaques, donc ça s'est traduit en particulier par cet effondrement de la gare de Novi Sad, qui était le fruit d'un contrat avec les Chinois et les Hongrois, et les revendications, elles appellent à combattre cette corruption, ce côté opaque et là aussi l'autoritarisme avec lequel le régime de Vucic réagit à ces protestations, avec des arrestations, des intimidations. Donc c'est dirigé contre l'ensemble du régime, du système, plus encore que contre une simple personnalité.
Alors, le président Vucic bénéficie toujours d'une base électorale solide. Ni la démission du Premier ministre, ni l'annonce d'un remaniement ministériel ne devraient toutefois éteindre le feu de la contestation en Serbie, d'autant que ça ne répond pas à la principale demande des manifestants, qui est de publier tous les documents relatifs à la rénovation de cette gare de Novi Sad qui s'est effondrée, afin que la lumière soit faite sur cet incident.
Alors, pourquoi, Carlota Morteo, le gouvernement refuse-t-il de faire acte de transparence sur ce chantier ?
Peut-être parce que dans un pays qui multiplie les grands projets sous la présidence d'Aleksandar Vučić, cela révélerait la corruption, les réseaux clientélistes qui, selon Florent Marciac, profitent notamment des partenariats noués entre la Serbie et la Chine sur des chantiers tels que les travaux de la gare, justement.
On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais certainement que les travaux n'ont pas été réalisés dans les normes. C'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que les contrats qui sont négociés avec les Chinois, d'accord, ils arrivent avec des conditions qui sont moins chères, beaucoup plus opaques, le matériel et les travailleurs sont chinois, ça amène des problèmes de sécurité publique qui sont maintenant visibles.
Voilà, les manifestants se sont déjà donné rendez-vous samedi prochain. Certains appellent à la grève générale. La crise risque donc de durer en Serbie.
Carlotta Morteo pour le dossier de cette édition. Dans l'actualité internationale, même pas peur, dit en substance la première ministre danoise à Donald Trump. Mette Frederiksen affirme n'avoir aucune raison de craindre une menace militaire contre le Danemark et le Groenland. Et ce, malgré les déclarations plutôt ambiguës sur le sujet de Donald Trump. Déclaration faite aujourd'hui en marge d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte.
On évoquait les États-Unis, la crise diplomatique entre Washington et Bogota, eh bien elle fut finalement de courte durée.
Oui, puisqu'aujourd'hui, deux avions militaires affrétés par le gouvernement colombien ont atterri dans la capitale colombienne avec à leur bord 200 migrants expulsés des États-Unis. Après des échanges houleux au cours du week-end entre le président Trump et son homologue Gustavo Petro et des menaces américaines d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les biens colombiens, la Colombie a finalement cédé aux conditions de Washington pour le retour des migrants. Précision Heike Schmidt.
Le bref bras de fer se termine sur des images postées sur les réseaux sociaux par le président colombien Gustavo Petro. Des migrants à leur descente d'avion à l'aéroport de Bogota portant des masques sanitaires mais pas de menottes au poignet. Ils sont colombiens, libres et dignes dans leur pays qui les aime, écrit sur X le président de gauche et comme une dernière pique à l'adresse de Donald Trump, il rajoute « Un migrant n'est pas un délinquant mais un être humain qui veut travailler, évoluer et vivre sa vie. » Deux avions militaires colombiens avaient décollé lundi à destination de San Diego et de Houston avec du personnel médical à bord pour rapatrier 200 migrants arrivés aux États-Unis clandestinement. Le gouvernement colombien a annoncé ce mardi des fonds pour soutenir la réintégration de ces revenants sans préciser s'il y aura d'autres rapatriements depuis les États-Unis. Les États-Unis qui ont promis le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine.
Heike Schmidt, nous apprenons à l'instant que le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce qu'il allait être invité par Donald Trump à la Maison Blanche le 4 février prochain. La France qui a mené à la fin des années 50 une véritable guerre contre les indépendantistes au Cameroun, guerre marquée par des violences extrêmes. Ce sont les mots utilisés dans un rapport d'historiens français et camerounais sur le rôle de Paris avant et après l'indépendance du Cameroun en 1960. Cette commission de 14 membres dirigée par l'historienne française Karine Ramondi a étudié le rôle de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun. Le rapport a été remis aujourd'hui au président camerounais.
Et on en parlera évidemment dans Afrique Soir avec Zéphirin Quadio dans un peu plus de 15 minutes sur RFI. On évoquait la France jeudi dernier, la directrice du Louvre, le plus grand musée du monde, qui tirait la sonnette d'alarme. Et bien 5 jours plus tard, Emmanuel Macron s'est rendu au Louvre.
Le président de la République française est venu annoncer un grand plan de réaménagement et de réhabilitation des infrastructures du musée. Le projet est appelé Louvre Nouvelle Renaissance. Il doit aboutir d'ici 2031. Et parmi les améliorations annoncées par le chef de l'État, l'ouverture d'une nouvelle porte d'entrée pour faciliter l'accès des visiteurs.
C'est un Louvre repensé, restauré, agrandi, qui devient pleinement épicentre de l'histoire de l'art pour notre pays et au-delà. Cela passe d'abord par la création d'une nouvelle grande entrée. Au niveau de la colonnade de Perrault, vaste et efficace, qui permettra de rééquilibrer, là aussi, la manière de visiter Louvre et de le rouvrir, de le redonner aux Parisiennes et aux Parisiens dans son accès. L'entrée par la pyramide était pensée pour 4 millions de visiteurs. Nous sommes à 9 aujourd'hui. Et donc, permettre à cette entrée, c'est permettre de, en effet, avoir un accès beaucoup plus simple, mais aussi, c'est permettre de repenser toute l'esplanade. En effet, l'esplanade située devant la colonnade offre beaucoup de possibilités. Cette opération permettra de revitaliser toute cette artère bordée de monuments importants et d'irriguer tout le quartier.
Le président de la République a aussi annoncé l'ouverture de nouvelles salles sous la cour carrée qui permettront notamment d'exposer le joyau du musée, la Joconde, dans un nouvel espace avec un accès séparé. Refermons ce journal avec les vœux aux acteurs de la transition écologique, les vœux de la ministre française Agnès Pannier-Runacher, puisque la pression contre l'écologie est bien réelle, y compris de la part de ses alliés politiques en France. Et en Europe, c'est un sujet de Jeanne Richard.
2025 sera l'année de tous les dangers pour l'environnement, estime la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. L'élection du climato-sceptique Donald Trump, la course aux ressources naturelles et à la transition énergétique entre grandes puissances en témoignent.
Beaucoup de populistes dans le monde, en Europe et en France, veulent mettre à bas tous les efforts qui ont été accomplis alors que nous sommes aussi engagés dans une guerre économique. Il faut surtout ne pas relâcher l'effort. Ces filières industrielles vertes qui sont les emplois de demain, qui sont la richesse de demain de nos territoires. Et j'appelle à la mobilisation générale en France et en Europe.
Elle a beau le répéter, l'écologie est la solution. N'empêche, les vents contraires soufflent jusque dans son propre camp, rappelle Cédric Marteau, directeur de la Ligue de protection des oiseaux, avec plusieurs lois en préparation qui ferait reculer l'environnement.
Il y a un effondrement de la prise en compte de l'écologie par les parlementaires. Et là, on en appelle au Sénat et à l'Assemblée en disant « attention, ne reculez pas ».
Malgré le discours de la ministre et avec un budget contraint, le contexte général semble donc plutôt hostile à la transition écologique.
Ben voilà pour la perspective. C'était Jeanne Richard dans le Grand Journal du Soir, présenté ce soir par Adrien Delgrange. 19h16 ici à Paris.
Romain Ozoui.
Et dans les prochaines minutes, nous irons au Canada. Le Canada à qui Donald Trump lance un bras de fer. Le nouveau président américain ne cesse de répéter qu'il n'a pas besoin des produits canadiens. Est-ce que c'est vraiment le cas? Quelle situation du côté du Canada? Eh bien, nous appellerons sur ces points-là la correspondante de Radio France Internationale. Et puis, le savez-vous, plus de 2000 enfants vivent dans la rue aujourd'hui en France. Face à cette situation intolérable, un avocat passe ses semaines à défendre des familles devant la justice. Nous l'avons rencontré, notre reportage à suivre. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Le foot, le Brésilien Neymar retrouve son club formateur, l'attaquant de 32 ans. Ça y est, quitte l'Arabie Saoudite pour retrouver Santos.
Mais le club d'Al Hilal, champion d'Arabie Saoudite en titre, et Neymar se disent au revoir. Décision communiquée hier par le club saoudien, recruté pour 90 millions d'euros en 2023. L'aventure du Ney à Riyad ne restera pas dans les annales. Miné par les blessures, le Brésilien n'y aura joué que 428 minutes pour un seul but marqué. Alors son départ n'est pas surprenant, la correspondance de Joseph Clément.
Un an et demi et ça sera tout. Sur le réseau social X, le club saoudien d'Al Hilal annonce une séparation d'un accord commun avec son joueur star, tout en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance envers Neymar pour ce qu'il a apporté, je cite, « tout au long de son passage au club ». Une séparation polie, mais dans les faits, le joueur n'a pas particulièrement brillé. Recruté à l'été 2023 pour un contrat en or estimé à 100 millions d'euros par saison, Neymar n'aura été engagé que 7 fois sur les pelouses saoudiennes pour un total d'un but et de 3 passes décisives sous le maillot bleu du club. Un bilan plutôt maigre, même s'il faut reconnaître que Neymar a dû faire une pause en octobre 2023 en raison d'une rupture des ligaments croisés au genou gauche. Un an plus tard, il retrouve la pelouse face aux Émirats Arabes Unis en Ligue des Champions Asiatiques, mais sans convaincre. Victime de nouvelles blessures, le joueur quitte donc son club aujourd'hui. Habitué à recruter des joueurs de renom tels que Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, l'Arabie Saoudite voit le départ de Neymar comme un coup de frein dans la stratégie du pays, à peser sur la scène du football mondial. Le Royaume doit accueillir la Coupe du Monde de football en 2034. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Et à Santos, Neymar retrouve un club qui l'a fait exploser aux yeux du monde entier. Il y a quelques années, la star y a disputé 220 matchs pour plus de 130 buts marqués.
C'est un peu plus que ce qu'il a fait en Arabie Saoudite. Donc le foot encore est le tour principal de la Ligue des Champions qui se termine demain. 18 matchs en simultané, ça va être important. Et ah, il y aura de l'enjeu sur toutes les pelouses, notamment à Barcelone. Barcelone va accueillir l'Atalanta Bergame et les Italiens ne pourront pas compter sur leur maître à jouer nigérian.
Et le meilleur joueur africain de l'année 2024, Romain Ademola Lookman ne sera pas du voyage en Espagne, blessé pour 3 semaines au niveau du genou droit. Un vrai coup dur hein, pour les Bergamas qui ont l'ambition de finir dans le top 8 cette saison. L'ailier a inscrit 14 buts et réalisé réalisé 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et cette dernière journée de Ligue des Champions sera à vivre en direct sur RFI. 2 matchs en même temps, Stuttgart-PSG et Brest-Real Madrid, commentés respectivement par Cédric de Oliveira et Thomas de Saint-Léger. Le rendez-vous est pris, Romain, 19h40, temps universel, pour absolument ne rien.
Et on y sera à ce rendez-vous. Dans le reste de l'actualité sportive, le handball, l'équipe de France masculine affronte l'Égypte en quart de finale des championnats du monde.
Et des pharaons, on se rappelle, qui avaient bousculé les Bleus lors de leur dernière rencontre. C'était aux Jeux Olympiques de Paris, menés au score. Les Français avaient finalement accroché le match nul dans les dernières minutes. Les Bleus ont pour l'instant, dans ces championnats du monde, réalisé un sans faute avec 5 victoires en autant de matchs. Une performance saluée par Elohim Prandi, qui a conscience qu'ils devront quand même élever le niveau.
Je pense qu'aujourd'hui, on entame, on va dire, la troisième étape de cette compétition, et elle va être bien plus excitante, on est impatient. Et en tout cas, jusque-là, on a fait un sans faute et on se doit d'élever notre niveau sur dans tous les aspects du jeu pour pouvoir aborder cette dernière semaine de la meilleure des façons.
Et France-Égypte, quart de finale de ces championnats du monde, le match qui débute à 20h, temps universel.
Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup pour ce journal des sports. Sofiane Amazian, 19h21, ici à Paris. Et on va à présent prendre la direction du Canada, le Canada qui figure parmi d'autres pays dans la ligne de mire du nouveau président américain, puisque dans son ambition impérialiste, eh bien Donald Trump a plusieurs fois évoqué le fait que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Pour le moment, Donald Trump répète à l'envi que les États-Unis n'ont pas besoin des produits canadiens. Voilà pourquoi il veut mettre fin au déficit commercial avec le pays voisin. Pour y parvenir, il compte cesser d'importer un certain nombre de biens. Et dans le même temps, il veut taxer des marchandises de 25% dès le 1er février. On va prendre la température sur ce sujet du côté de Québec, où nous attend la correspondante de RFI, Pascal Guéricola. Pascal, qu'en est-il réellement? Est-ce que, effectivement, l'économie américaine peut se passer de produits clés qui viennent de sa frontière nord, comme par exemple le pétrole?
Si l'on en croit Donald Trump, il suffit de forer davantage aux États-Unis pour rendre ce pays autosuffisant en pétrole. Dans les faits, presque 20% du pétrole consommé vient du Canada, le 4e producteur au monde. Il s'agit d'un pétrole lourd comparé à celui produit au Moyen-Orient. C'est pour lui que les raffineries du centre des États-Unis sont actuellement configurées. Autrement dit, elles ne pourraient pas traiter du jour au lendemain cette énergie fossile venue d'ailleurs. Il leur faudrait plusieurs années pour adapter leur technologie. Autre problème, l'orientation géographique des pipelines. Ils sont dirigés du nord vers le sud, justement pour acheminer le pétrole vers le Midwest américain ou le golfe du Mexique. Il paraît donc illusoire d'imaginer que l'économie américaine se passe du jour au lendemain de cette ressource naturelle canadienne.
Donc voilà pour le pétrole, Pascal. Quelles sont les autres marchandises canadiennes dont les États-Unis dépendent?
Parmi les métaux dont les Américains sont friands, l'aluminium vient en tête. Ils en consomment 6 fois plus qu'ils en produisent, et la moitié vient du Canada. S'en passer constituerait donc un véritable casse-tête pour les entreprises qui en ont besoin pour leur production. Même chose pour le bois de construction canadien qui constitue 25% des achats côté États-Unis. Donald Trump a beau affirmer qu'il suffit de couper du bois américain, les scieries de ce pays ne disposent certainement pas des capacités nécessaires pour traiter cette ressource. L'industrie automobile nord-américaine pourrait elle aussi être touchée si les États-Unis se coupent de l'industrie canadienne. Actuellement, un véhicule peut passer 6 ou 7 fois la frontière avant d'être complété, tant la production des deux pays est imbriquée.
Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que le Canada n'a rien à craindre de son voisin américain?
Au contraire, il a tout à perdre si du jour au lendemain la frontière se ferme. 97% des exportations de pétrole canadien partent aux États-Unis. Cela serait donc catastrophique si le pipeline s'arrêtait à la frontière. Même chose pour les 90% de voitures canadiennes vendues côté américain. Ce n'est pas pour rien que le Canada voit les projets de Donald Trump comme une menace existentielle pour ce pays.
Eh bien, merci Pascal Guéricola depuis Québec, où il est 13h24. Alors, toujours concernant Donald Trump, voilà une proposition pour le Proche-Orient cette fois qui fait vivement réagir. Le nouveau président américain évoque le fait que les Palestiniens de Gaza pourraient être déplacés de force vers l'Égypte et la Jordanie. Cela serait inacceptable, a affirmé ce mardi le ministère français des Affaires étrangères. Proposition qui intervient alors que de nombreux Gazaouis sont de retour. Suite au cessez-le-feu, l'armée israélienne petit à petit se retire du nord de l'enclave où les Palestiniens donc affluent. Seulement voilà, Que découvrent-ils ces Palestiniens sur place après 15 mois de guerre? Et puis surtout, quel accompagnement logistique? Question posée à la mi-journée sur RFI à Amande Bazerolle, chef de mission de Médecins sans frontières.
Du nord du territoire, ça je pense qu'on a tous vu les images, il ne reste quasiment rien. Ça fait 3 jours que nous y allons pour faire de la distribution d'eau. Les gens essayent de s'installer dans ce qui reste, avec effectivement le risque également, le fait de n'avoir accès à rien, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'infrastructure, qu'il n'y ait rien, mais qu'en plus il y ait des munitions non explosées qui sont effectivement un très grand risque. Mais les gens veulent retourner de toute façon sur leur terre. Et donc là, il faut pouvoir planifier des tentes, de quoi les installer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, là-bas, il n'y a absolument rien pour les accueillir. Ces gens, pour une grande majorité, étaient déjà sous tente dans le sud de la bande de Gaza. Donc ces tentes sont en train d'arriver. Il va sûrement falloir augmenter le nombre car aujourd'hui, en se déplaçant, leurs abris de fortune, hein, parce que tous n'avaient pas des tentes, ont été partiellement abîmés, détruits et de toute façon, l'été, à cause du soleil, est déjà un an à vivre dehors. Donc, effectivement, il va falloir pouvoir envoyer beaucoup plus de matériel pour pouvoir organiser et essayer d'avoir des camps un peu plus organisés que ça ne l'avait été à l'époque sous les bombardements où c'était évidemment très très difficile, non seulement de trouver de l'espace ici à Gaza et de pouvoir organiser dans ces conditions.
Amande Bazerolle, chef de mission de Médecins sans frontières, invitée de RFI Midi. Elle répondait aux questions d'Anne Cantner. Allez, ce chiffre édifiant à présent en France, plus de 2000 enfants qui vivent à la rue. Situation contraire totalement au droit, puisque l'État a la charge d'assurer un hébergement d'urgence à toute personne sans abri et vulnérable. Il y a un homme qui passe ses semaines à défendre devant la justice des familles qui sont à la rue à Paris. C'est un avocat, il s'appelle Maître Samy Djemaoun. La plupart du temps, les familles qui sont concernées sont demandeuses d'asile. C'est une procédure, la demande d'asile, qui prend du temps. Mais pendant ce temps-là, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est censé fournir à ces familles une allocation journalière et un logement. Selon voilà, le plus souvent, ces familles connaissent mal leurs droits. Marie Casadebé a suivi Maître Djemaoun dans une de ses nombreuses affaires devant le tribunal administratif de Paris. Reportage.
Sûrement vous posez la question, parce qu'en fait on vous a convoqué une première fois.
Dans une petite salle d'audience mal éclairée, Samy Djemaoun donne ses derniers conseils à ses clients. Les parents de la petite Khadija viennent du nord de la Côte d'Ivoire.
J'ai demandé l'asile avec l'enfant, parce que moi j'ai été excisée. La douleur que j'ai subie, je ne veux pas que ma fille Khadija aussi prenne ça.
On a demandé l'asile depuis en avril jusqu'à maintenant, on n'a pas d'hébergement. Et c'est tout récemment en échangeant avec une amie.
Elle a dit que non, tu as le droit, puisque vous avez un enfant malade et elle a une pathologie très grave. Et la drépanocytose.
Cet ami leur conseille donc d'appeler Maître Djemaoun. 10 jours après, ils se retrouvent au tribunal.
Ouais, ils ouvrent une salle, c'est ça?
Oui.
Et après...
En moins de 3 ans, Samy Djemaoun a saisi près de 80 fois la justice pour contraindre l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à loger des familles à la rue. L'avocat a gagné près de 70 fois. Comme souvent, l'administration a fait parvenir au tribunal un mémoire en défense, un texte expliquant sa position.
Vous avez un certificat médical qui indique que le pronostic vital de l'enfant peut être engagé à tout moment et qu'elle a besoin d'un endroit sain et stable. Et l'OFI nous dit qu'elle a un traitement et un suivi médical, c'est bon. Tout en reconnaissant, dans le mémoire en défense, qu'elle fait partie des familles les plus prioritaires. Une famille prioritaire, c'est une famille avec des enfants, point. On ne va pas commencer à faire une hiérarchisation de la détresse.
Ce qu'on vous oppose aussi, c'est un dispositif saturé.
Mais en tout cas, les familles sont in fine hébergées. Donc ça veut dire que l'argument de la saturation que l'OFI oppose, il doit céder devant la vulnérabilité des personnes.
L'audience n'aura duré qu'une petite demi-heure. Hasard du calendrier, ce même jour, l'avocat apprend que la petite Khadija obtient le statut de réfugié. Un soulagement pour ses parents, mais aussi beaucoup d'amertume.
Il a tellement perdu le temps durant tous ces temps-là. C'est la débrouille. C'est de l'association en association. S'il y a un logement, ça va.
Merci. Au revoir. Merci pour le café.
L'OFI est condamné. 3 jours après, la famille obtient les clés d'un logement. Impossible de savoir combien d'autres sont à la rue faute d'informations sur leurs droits. Pour l'avocat, l'administration compte là-dessus.
Ils se diront, sur 100 personnes, Maître Djemaoun va saisir pour 20, parce qu'il n'y aura que 20 qui auront eu accès à des associations, à tout un tas de dispositifs d'aide juridique. Et s'ils sont condamnés sur les 20, ils se disent, c'est pas si mal que ça.
L'OFI, contacté par téléphone, affirme que le couple avait signalé être hébergé de façon précaire chez un ami, raison pour laquelle aucune proposition ne lui a été faite. Son directeur, Didier Lesky, assure qu'un signalement de la part de la famille aurait suffi à son hébergement.
Marie Casadebé sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute. Dans 30 secondes, la première édition d'Afrique Soir, on fera un point sur la situation à Goma.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693.